T'es pas du vent.
Non, il n'y a pas de stress.
Il n'y a pas de stress.
C'est intéressant.
C'est pas du vent.
Bien sûr.
Bueno, aquí lo más importante es la gente.
Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent.
Mais reviens, non, non.
Vas-y,
reviens vers moi.
Anne-Cécile Bras.
Bonjour, l'eau est vitale, vous le savez, mais permettez-moi d'insister avec quelques chiffres qui donneront une autre saveur à votre prochaine gorgée. Les deux tiers de notre corps, les deux tiers sont composés d'eau. Elle irrigue nos cellules à tel point que 3 jours sans boire, et c'est tout simplement la mort. Sympa ce début d'émission, pensez-vous, mais qu'est-ce qui lui prend de venir m'agresser comme ça? Eh bien lundi, c'était la journée mondiale de l'eau. L'occasion de rappeler à nouveau que la moitié de l'humanité vit dans des zones où l'eau est une ressource rare au moins un mois par an. Et les prévisions sont dramatiques parce qu'avec la croissance démographique et le changement climatique, eh bien, ça se complique. C'est particulièrement vrai au Sahel où les températures ont augmenté plus rapidement que la moyenne du globe. Vous l'entendrez avec le reportage de Samuel Turpin et d'Eric Ouedraogo à Kaya, dans la région du centre-nord du Burkina Faso. Et ce n'est pas qu'une question de quantité d'eau, c'est bien plus compliqué. Nous en parlons tout de suite avec notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Eric Serva.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Centre international sur l'eau de l'UNESCO qui est basé à Montpellier dans le sud de la France. Alors c'est un grand centre de recherche sur le sujet.
Oui, absolument. C'est un grand centre de recherche sur le sujet. C'est un des 3 centres internationaux UNESCO qui existent en France. Et il regroupe 400 scientifiques et entre 120 et 150 doctorants dans 17 laboratoires qui sont tous soutenus par 13 institutions, établissements d'enseignement supérieur comme toutes nos universités de la région, les écoles d'ingénieurs et les grands organismes de recherche comme le CNRS, l'IRD ou l'INRAE. Donc oui, c'est un gros centre. Je pense que c'est une des communautés rassemblées, organisées, structurées les plus importantes en Europe. Donc nous sommes un des grands centres internationaux parrainés par l'UNESCO.
Alors on va utiliser votre science pour partager les connaissances. Est-ce qu'on va planter le décor tout de suite? En fait, nous n'avons pas tant d'eau douce que cela à notre disposition sur la planète.
Non, effectivement. Chacun pense que l'eau est une ressource illimitée, mais ça n'est pas le cas. D'abord parce qu'on ne crée pas d'eau. On a, entre guillemets, un stock d'eau à la surface de la planète qui est ce qu'il est. Et on n'en crée pas. Théoriquement, on n'en perd pas, mais en tout cas, on n'en crée pas. Et effectivement, la quantité est extrêmement limitée. Dans les chiffres qui nous concernent, il faut savoir que vous avez sur la planète à peu près 1400 millions de kilomètres cubes d'eau. Sur cette quantité-là, vous en avez seulement 2,5% à peu près qui est de l'eau douce. Et sur ces 2,5%, vous n'en avez pratiquement que 0,5% qui constituent les rivières et les lacs. Autrement dit, ces 0,5%, c'est la quantité d'eau à laquelle il est facile d'accéder et vous comprenez qu'elle est extrêmement faible et donc extrêmement fragile.
Alors, vous le disiez, on ne peut pas en créer et elle est inégalement répartie sur la planète.
Oui, absolument. Et c'est un des problèmes, c'est-à-dire que si globalement, on va dire, la quantité d'eau qui existe sur la planète suffirait pour l'ensemble de l'humanité, en fait, on se trouve avec une très très forte disparité. Et donc, on a des zones qui sont désertiques et dans lesquelles l'eau est rarissime. Et puis, à l'inverse, il y a d'autres endroits où l'eau est surabondante et crée d'autres dégâts que ce que créent les sécheresses, avec des inondations extrêmes, avec des crues dévastatrices et des événements qui sont terribles.
Quelles sont les zones les plus en tension aujourd'hui?
Alors, évidemment, les zones désertiques et qui continuent dans cette voie-là, en particulier en Afrique, les zones Les zones sahéliennes et subsahéliennes sont des endroits où la tension est très forte, mais le bassin méditerranéen est une région qui est également soumise à un stress hydrique extrêmement important, en particulier toute la rive sud du bassin méditerranéen, qui est déjà dans une situation de stress hydrique, et cette situation ne va pas s'améliorer avec ce qu'on attend en matière de changement climatique. Et puis vous avez dans certains grands pays des zones qui sont en tension. Si on prend par exemple le cas des États-Unis, on a l'habitude d'entendre parler des sécheresses en Californie qui sont dramatiques et qui occasionnent vraiment des problèmes, de très, très sérieux problèmes pour les gens qui habitent dans ces régions.
Alors, cela fait 30 ans que la Journée mondiale de l'eau existe, enfin presque 30 ans. Est-ce qu'il y a eu des progrès en 30 ans?
Alors, c'est toujours difficile de dire est-ce qu'il y a eu des progrès parce qu'il faut savoir comment les mesurer. Donc moi j'ai tendance à être un optimiste par nécessité. Je pense que si on n'est pas optimiste, de toute façon, il est compliqué de regarder les choses parce qu'on a l'impression qu'elles se dégradent en permanence ou qu'en tout cas elles n'avancent pas suffisamment vite. Je pense d'abord que ce type d'événement c'est important parce que c'est un moment, je vais dire, de communion finalement, d'une certaine manière. C'était le cas par exemple en début de semaine, avec la Journée mondiale de l'eau qui est partagée dans un très grand nombre de pays, qui donne lieu à un événement international dans lequel intervient la directrice générale de l'UNESCO, enfin tout un lancement de rapports différents, et puis des déclinaisons nationales. Et donc il y a une vraie prise de conscience de ce qu'est l'eau, du fait que c'est un bien indispensable à la vie, et que c'est un bien qu'il convient de partager et de rendre accessible aux uns et aux autres. Plus de la moitié de l'humanité aujourd'hui se débat dans des difficultés énormes parce que cette moitié de l'humanité n'a pas accès à une eau de qualité, comme elle n'a pas accès non plus à des systèmes et des services d'assainissement qui lui permettent de vivre dans de bonnes conditions. Donc, cette Journée mondiale de l'eau, elle est nécessaire. Après, je pense que comme le reste, on voudrait évidemment que les choses avancent plus vite, mais comme le reste, un certain nombre de choses avancent à travers ces prises de conscience, à travers des financements qui sont toujours insuffisants, mais qu'on arrive à injecter dans des circuits comme cela, à travers des aspects réglementaires qui se mettent en place. Par exemple, en Europe, nous avons la directive cadre sur l'eau qui a mis un certain nombre de contraintes et de freins à certaines utilisations et qui permet d'avancer dans la bonne direction. Donc, tout ça, c'est une somme de petites avancées qui fait que progressivement, les choses s'améliorent, même si elles ne s'améliorent pas suffisamment vite et même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre notre objectif.
Pour comprendre à quel point la vie est compliquée quand l'eau vient à manquer, je vous propose de nous rendre en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Depuis 4 ans, le pays a progressivement glissé vers la violence et l'instabilité. 1 million de Burkinabés sont aujourd'hui déplacés, notamment dans la région Centre-Nord, qui est la plus touchée. En zone de conflit, s'approvisionner quotidiennement en eau devient un défi et la concentration des populations autour des points d'eau pose un véritable enjeu sanitaire et humanitaire, surtout en période de pandémie. Mais c'est également un enjeu sécuritaire, car l'approvisionnement en eau peut devenir source de querelles entre les communautés, notamment entre éleveurs et agriculteurs.
Alors, vous voyez toutes les femmes qui sont là. Elles sont en train d'aller à la fontaine pour chercher de l'eau. Chacun amène son bidon, des bidons vides comme ça. Mais elles vont faire la queue. Elles peuvent attendre 2 heures, 3 heures de temps pour avoir l'eau ici. Alors que normalement, 10 minutes, 20 minutes, c'est bon pour pouvoir rentrer à la maison et continuer la cuisine.
Le Pacte de l'eau, c'est un reportage de Samuel Turpin et Eric Ouédraogo. Ils ont rendez-vous avec la maire adjointe de la ville de Kaya, la principale ville de la région, autour d'une pompe à eau où la file d'attente est longue.
Je suis Madame Sawadogo, née Sawadogo Binta. Je suis la première adjointe au maire de la commune de Kaya. Kaya, c'est la capitale de la région du Centre-Nord. C'était un grand centre économique parce que le train passait pour chercher le manganèse à Tambao. Il y a également qu'on passe par Kaya pour aller au Niger, on passe par Kaya également pour aller au Mali. Et même de Kaya, on peut aller au Ghana.
C'est un grand centre hein, par où on voit beaucoup de biens.
C'est ça, c'est ça.
La ville de Kaya, c'est combien d'habitants aujourd'hui?
Bon, au recensement de 2006, on était à 117 722 habitants. En 2019, on a vu la population tripler. Nous avons accueilli beaucoup de déplacés compte tenu de l'insécurité, à cause des troubles qui viennent du nord et du Sahel.
Alors, quels sont les défis qui sont posés par une population qui a triplé dans une ville?
La commune de Kaya a un problème crucial d'eau potable. C'est le lac d'Em qui ravitaille la ville de Kaya, mais la station est petite. En fait, c'est le matériel pour produire l'eau a été prévu quand la population n'était pas aussi nombreuse. Il y a le changement climatique, les pluies se font rares, il commence à pleuvoir en juin et avant octobre même, les pluies s'arrêtent.
Voilà. Et donc les réserves vont seulement jusqu'à décembre-janvier.
Les retenues d'eau se tarissent en tout cas, des fois même avant décembre.
Alors comment vous faites face, vous autorités, qui devez gérer au quotidien toutes les difficultés avec les populations déplacées et les populations autochtones? Il ne faut pas oublier que les populations autochtones sont impactées également. Vous gérez ça?
Avec les partenaires, ils sont en train de travailler pour avoir une autre station.
L'ONEA, l'Office national des eaux et de l'assainissement, fait des prospections pour des nouveaux forages en périphérie de la ville.
Nous sommes en train de voir avec des partenaires pour faire des forages dans les quatre coins de la commune de Kaya, de l'est à l'ouest, le nord et au sud, pour faire des grands forages afin de connecter l'eau de ces forages-là à l'ONEA pour que nous puissions tous avoir l'eau. Et dans la commune de Kaya, nous avons des particuliers aussi qui font des forages et qui vendent l'eau à la population.
Ça veut dire qu'à l'intérieur de sa parcelle, une personne a le droit de faire un forage, d'aller chercher l'eau et de la vendre.
Oui, presque tous les moments, on a des demandes de forage. Moi-même, j'ai sur mon bureau, ça vaut 4 demandes de forage. Alors, si je trouve l'eau dans sa cour, bon. On change à ce qu'ils fassent des analyses pour voir si l'eau est potable. Mais des fois, on n'arrive pas à vérifier tout. Hein.
Ça veut dire qu'il y a un marché parallèle de l'eau, en fait, parallèle de l'ONEA. Et on l'autorise parce que la situation est vraiment très compliquée.
Voilà, il y a un marché parallèle et la mairie les autorise parce que comme nous avons un problème d'eau, il faut les laisser faire un temps soit peu pour soulager la population. Voilà.
Là, on entend autour de nous le bruit qui monte. Et on a les enfants qui sont impatients, on a les mamans qui s'impatientent aussi.
C'est ça, il faut que les femmes soient vigilantes. Sinon, une autre personne peut s'approcher avec son bidon et puis te dévancer. Ça arrive des fois qu'il y a des conflits parce que moi, j'ai laissé mon bidon. Je suis rentrée dans ma cour qui est proche là pour voir soit ma marmite au feu. Et je reviens trouver que tu as commencé à te servir. Voilà, c'est des choses comme ça qui font que les femmes ne s'entendent pas au niveau des points. Pour éviter tout ça, il faut qu'il y ait des forages partout.
Il faut éviter la queue parce que les gens s'impatientent.
Voilà, parce que les gens s'impatientent.
Et puis il fait très chaud, hein, on est en plein soleil là.
Oui.
Qu'est-ce qu'elles disent là?
Elle a dit que quand elles étaient dans leur village, c'est eux qui ravitaillaient Kaya en mil, en sorgho, en haricot, en arachide. Donc c'était le grenier du San Matenga, c'est Dablo Barsalogo. Alors que c'est eux qui se sont déplacés vers nous, Namisigma. Donc il n'y a plus à manger, c'est ça qu'elle est en train de dire. Ah voilà, donc nous sommes là, on veut repartir pour que vous puissiez avoir à manger. Voilà.
La ville de Kaya vient puiser son eau potable au lac d'Em, situé à une quinzaine de kilomètres. En moins de 20 ans, le lac a perdu 40% de sa superficie. À cause de l'évaporation, qui s'accélère sous les effets du dérèglement climatique, mais aussi à cause des activités humaines qui favorisent son ensablement. La station de pompage, installée en 2009 pour compléter les forages existants, ne suffit plus à approvisionner une population qui a doublé en moins de 3 ans. Des secteurs entiers de la ville ne sont plus alimentés par le réseau d'eau, comme ici, au secteur 4.
Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Madame Ouedraogo, née Kabore Clémence. J'habite le quartier Tampelra du secteur 4 de la ville de Kaya.
Combien de fois vous avez l'eau par semaine ou par mois, Clémence?
Disons qu'on a l'eau presque une fois toutes les 2 semaines. Des fois, on peut faire tout un mois sans l'eau courante. Et on vient chercher l'eau ici tous les jours. C'est chez un particulier qui a fait un forage chez lui à domicile.
Il fait le commerce d'eau?
Il fait le commerce d'eau, oui.
On n'est pas très loin du centre-ville de Kaya, mais l'eau n'arrive pas jusque-là.
Le problème d'eau a commencé courant 2015. Au début, on a commencé à connaître les coupures rien que dans la journée. Mais on se réveillait tardivement la nuit pour avoir l'eau. Entre minuit, 1h et 3h du matin, on pouvait avoir l'eau. Donc il fallait veiller. Quand il y a l'eau, on s'appelle au téléphone, on s'informe pour se lever, enlever l'eau.
Là, c'est les solutions que vous avez trouvées dans le quartier.
Voilà. Mais depuis l'arrivée des déplacés, la situation s'est empirée. On est arrivé même à faire un mois, sinon plus, sans eau.
Est-ce que le prix de l'eau a augmenté?
Oui, le prix de l'eau a augmenté. On achetait la barrique d'eau de 200 litres à 500 francs, mais on est passé à 750 francs. Et les conséquences sont énormes. D'abord, financièrement, ça nous coûte doublement, puisqu'il faut payer les factures de l'ONEA qui continuent à venir malgré l'absence d'eau. Et parallèlement, il faut acheter l'eau. Bon, par exemple, moi, je suis institutrice. Dans la journée, je ne suis pas là, je suis au travail. Il me faut m'organiser pour avoir de l'eau laissée à la maison avant d'aller au travail. Et je disais qu'on veille la nuit pour attendre l'eau. Tu te réveilles le matin toute fatiguée. Ce n'est vraiment pas facile.
L'eau est devenue la priorité des organisations humanitaires, locales et internationales. Pour des raisons sanitaires, surtout en période de pandémie, mais aussi pour des raisons socio-économiques et de cohabitation entre les communautés. Nous rejoignons Noël Zigani, dans le secteur 6 de la ville. Il est responsable des opérations pour la Confédération d'ONG internationale Oxfam, dans la région Centre-Nord.
Ici, nous sommes à Bolé. Bolé, c'est le secteur 6 de Kaya. Alors, c'est une infrastructure que nous avons construite en octobre 2020 dans ce quartier qui a accueilli beaucoup de déplacés. En une année et demie, on a atteint 105 000 déplacés dans la ville de Kaya, ce qui est énorme pour une zone qui est chroniquement déficitaire en eau. Selon les services de l'État, le déficit aujourd'hui est à près de 2500 m3 par jour. Le contexte hydrogéologique n'est pas du tout favorable, si bien qu'il y a eu beaucoup de forages négatifs qui ont été réalisés. Il y a un assèchement de la nappe.
Particulièrement en saison sèche et avec le changement climatique.
Exactement. Une saison sèche qui dure de plus en plus longtemps, une pluviométrie qui se réduit d'année en année. Vous voyez, déjà nous sommes en février. Traditionnellement, le mois de février, c'est une période assez favorable, c'est une période de froid. Et vous voyez que là où nous sommes actuellement, il fait extrêmement chaud. Donc la saison sèche est assez précoce. Elle commence déjà à partir de février et va jusqu'en juin.
Un hivernage qui est aussi de plus en plus tardif.
Exactement, un hivernage qui est de plus en plus tardif.
Comment avez-vous répondu, vous, acteurs humanitaires internationaux?
Une des premières solutions urgentes que nous avons dû justement développer, c'est de faire du water tracking. Pour essayer d'apporter un léger soulagement aux populations déplacées qui sont par exemple au niveau de Barsalogo, mais également des communes voisines à Kaya.
Donc convoyer de l'eau avec des camions?
Exactement. Et nous avons dû également transformer certains forages qui ont un débit plus ou moins acceptable. Nous nous sommes également lancés dans la réalisation de nouveaux forages. Et lorsque le débit est assez important, autour de 12 à 16 mètres cubes, nous essayons de collaborer avec l'ONEA qui est en charge justement de la question de l'eau au niveau de la ville de Kaya pour injecter cette quantité d'eau dans le système d'adduction de l'ONEA.
L'ONEA, c'est l'Office national
de l'eau et de l'assainissement. Voilà.
Donc vous travaillez en pleine concertation avec les acteurs et les autorités de la ville de Kaya.
Absolument, nous sommes véritablement en concertation avec les services techniques de l'État. Nous travaillons justement en synergie avec les autres acteurs. La communauté elle-même se mobilise et elle est impliquée dans la recherche de la solution, dans la gestion également des points d'eau, dans la gestion des conflits au niveau des points d'eau. Et parfois, elles ont recours aux sages du village pour désamorcer effectivement certains conflits. Il ne suffit pas seulement de réaliser des forages, il faut prendre en compte effectivement cette dimension de conflit qui peut être un obstacle à l'accès à l'eau pour certaines catégories de la population.
Et l'accès à l'eau est une des priorités pour permettre et amener à la résolution de conflits.
Absolument, tout à fait.
Quelles sont les principales conséquences d'un manque d'eau dans une ville comme Kaya où la concentration urbaine a doublé en un an et demi?
Une des premières conséquences est des tensions, des conflits au niveau des points d'eau. Et ça, on le vit au quotidien. L'autre conséquence, c'est justement les maladies liées au manque d'eau. Vous voyez, les maladies diarrhéiques, les maladies de peau, etc. L'autre conséquence, c'est par rapport justement à la pandémie du Covid-19, où le message principal, c'est de se laver les mains. Et malheureusement, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Et les gels hydroalcooliques ne sont pas à la portée justement de cette population.
Donc, c'est trop cher.
C'est trop cher. Voilà. Une des conséquences, et ça c'est une des femmes qui a bien traduit effectivement ce qu'elle vit, en disant qu'elles sont touchées dans leur propre dignité. Pour une femme qui fait 2-3 jours sans pouvoir se laver, c'est une blessure assez profonde.
Puis il y a d'autres conséquences pour les femmes, parce que c'est elles hein, qui ont la corvée d'eau.
Exactement, c'est elles qui ont la corvée d'eau et toute la journée elles sont à la recherche de l'eau. Et donc du coup elles n'ont plus le temps de s'occuper, de mener des activités génératrices de revenus.
On le voit devant nous, hein. Il est 14h30, Noël, le soleil est au zénith, il fait très très chaud et on a une queue devant nous d'environ 35 personnes qui sont encore à la recherche d'eau à 14h30, alors que d'habitude c'est une corvée plutôt matinale.
Exactement, une corvée très matinale ou carrément dans l'après-midi au coucher du soleil. Le manque d'eau fait qu'effectivement, elles passent toute la journée à la recherche de l'eau. Vous voyez, les enfants sont mobilisés également dans la recherche de l'eau. Et ça, ce qui joue considérablement justement sur leur scolarité. Ça, c'est un problème majeur pour lequel les acteurs sont en train de se concerter pour véritablement trouver une solution.
Ici, on est dans une dynamique urbaine, donc vraiment la périphérie de la ville de Kaya. Mais le problème de l'eau a une toute autre signification dans une dimension rurale.
Il est clair que la problématique de l'eau est totalement différente qu'en ville. C'est le cas aujourd'hui à Barsalogho, où la situation en matière d'accès à l'eau est devenue très très critique, avec une population qui a quintuplé et avec malheureusement très peu d'infrastructures d'eau dans la ville de Barsalogho.
Nous prenons la route. Avec le président de l'Association des municipalités rurales de la région, nous visitons des villages d'agriculteurs, des villages d'éleveurs. 95% de la population vit ici d'activités agropastorales. Des groupements de villages, qui disposaient chacun de leurs puits, doivent maintenant partager un seul point d'eau. Les eaux de surface et les réservoirs sont à sec. Partout, des colonnes de femmes, bidons sur la tête, marchent le long des routes. Nous nous arrêtons dans le village de Balgouma, un village d'éleveurs peuls qui accueille depuis une année des personnes déplacées de la même communauté, mais aussi des personnes déplacées de la communauté Mossi. Il est proche de midi. Au point d'eau, les activités sont organisées. Le bétail d'abord, les femmes pour les besoins domestiques ensuite. La file est longue et le chef de village joue les médiateurs.
Le village ne compte qu'un seul forage que nous utilisons pour le bétail et tous nos besoins. Nous avons accueilli beaucoup de déplacés. Il y a parmi eux des Peuls, mais aussi des Mossi. Nous n'avons fait aucune différence. Pour nous, ce sont juste des personnes qui sont dans le besoin. Pour éviter l'attente à la pompe à eau et les conflits, nous essayons d'organiser les besoins. Le bétail est prioritaire. Nous aurions vraiment besoin d'un second point d'eau.
La commune est jolie. Le problème, ce ne sont pas les déplacés que nous avons accueillis, mais le fait que nous n'ayons qu'un point d'eau pour tous. Regardez comment les enfants sont sales. Nous ne pouvons plus les laver tous les jours. Nous passons trop de temps pour nous approvisionner en eau. Tu peux partir à 6h du matin pour ne revenir qu'à midi pour seulement 2 à 3 bidons. Nous ne trouvons même plus le temps d'aller au marché vendre ou acheter nos produits. Nous sommes obligés de demander aux hommes et aux enfants de nous aider.
Moi, je suis déplacée. Depuis que je vis ici, depuis 10 mois, on vit en harmonie tous ensemble. Même si nous sommes nombreux, je ne me sens pas marginalisée. On entend souvent qu'il y a des disputes entre les populations autour des points d'eau. Mais ici, on gère les querelles. Le problème, c'est le manque d'eau. Tous nos habits sont sales. Le manque d'hygiène nous fait craindre les maladies, comme les diarrhées, surtout pour les enfants.
C'est un scénario que nous trouvons dans tous les villages de la région du Centre-Nord.
Abdoulaye Bafatman, président de l'Association des maires ruraux de la région Centre-Nord et maire de la commune de Barsalogo.
Un seul point d'eau pour un village d'environ 700 à 800 personnes. Quand on sait que la norme, c'est un point d'eau pour 300 habitants, tout le monde se retrouve au niveau du forage et les animaux viennent s'abreuver grâce à un petit réservoir. Vous voyez la pression qu'il y a sur ces points d'eau-là. Et c'est quelque chose, malheureusement, qui, au centre-nord ici, on le trouve ça dans presque tous les villages. Alors, ce village a une particularité. Les populations autochtones ont reçu des déplacés Mossi et des déplacés Peul. Bon, chose qui est un peu rare, parce que dans l'insécurité que nous vivons ici, généralement, les déplacés vont vers leur village où l'ethnie est dominante. Nous sommes tous conscients qu'actuellement, cette insécurité a créé l'effritement de la cohésion sociale et souvent, les gens ont peur de ce qui ne leur ressemble pas.
Vous êtes maire de Barsalogo, donc cette localité qui reste une localité avec beaucoup d'insécurité et puis une des localités qui reçoit le plus de populations déplacées.
Effectivement, je suis aussi le maire de la commune rurale de Barsalogo, une commune aujourd'hui qui est, j'allais dire, la plus touchée au niveau du centre-nord en termes d'insécurité, parce que de 75 villages, nous sommes réduits à vivre dans 35 villages aujourd'hui. Nous avons environ 87 000 déplacés, sans compter les derniers événements.
Il y a eu un incident de sécurité avant-hier, puisqu'on devait vous rejoindre à Barsalogo. Nous ne pouvons pas y aller parce qu'il y a eu un incident sécuritaire qui a déplacé 600 personnes.
Exactement. Quand vous arrivez à Barsalogo, c'est des vastes étendues de tentes à perte de vue. Et vous comprenez la pression. Et aujourd'hui, nous avons des files et des files d'attente autour des points d'eau à Barsalogo. Et le comble, c'est que ces points d'eau n'ont pas des débits vraiment raisonnables pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et il y a aussi la pression du changement climatique qui vraiment cause un problème parce qu'on n'a plus de retenue d'eau à ciel ouvert. Donc tout le monde se retrouve sur les points d'eau des forages, les animaux, les hommes, et tout le monde se retrouve sur les points d'eau.
Alors en milieu rural, l'eau elle sert à tout. Et puis il y a une spécificité, c'est qu'elle sert particulièrement au bétail.
Exactement. Pour un bon éleveur, le bétail est toute sa vie. Alors vous comprenez que s'il y a un problème d'eau pour le bétail, il est plus même impacté que si ça le concernait lui-même. Je peux témoigner au niveau de Barsalogo, les gens ne peuvent pas se laver tous les jours. Les gens se lavent à tour de rôle. Donner à boire, en tout cas aux animaux, c'est une priorité. ils comptent beaucoup sur ces animaux pour se prendre en charge, parce que ça y va de leur survie. Beaucoup de déplacés dans la fuite ont perdu leur bétail. Ceux qui se sont déplacés par anticipation pour ne pas subir le même sort, alors eux, ils ont eu le temps d'amener leur bétail. Compte tenu aussi de l'espace et du manque de fourrage, ils sont obligés de vendre pour réduire le minimum de leur bétail. Ils ne sont pas au centre-ville, mais tout autour de Barsalgo.
Et à cet endroit, en fait, comme vous le disiez, oui. Il n'y a pas d'eau de surface.
Il n'y a pas d'eau de surface.
Où le bétail peut aller s'abreuver. Oui. Donc on est obligé d'utiliser l'eau des forages, exactement. Qui est l'eau qui sert oui. aux besoins domestiques, oui. mais aussi aux besoins agricoles. Oui. En fait, ce point d'eau, il sert à tout le monde. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que le bétail est une des grosses consommations.
Oui, c'est une réalité. Bon, il n'y a pas de point d'eau à ciel ouvert. Et donc, les bétails sont obligés de venir s'abreuver au niveau des forages. Beaucoup de populations font 4-5 km pour aller chercher de l'eau dans des zones d'insécurité parce que à 5 km de Barsalgo, vous êtes en insécurité. Et les gens sont obligés, surtout les femmes, sont obligées de braver ça. Elles n'ont pas le choix.
Alors c'est le paradoxe parce qu'en fait, ces populations déplacées ont quitté leur village à cause de l'insécurité et sont venus chercher refuge dans une zone plus sécurisée autour de Barsalogo. Et comme il n'y a pas d'eau, les femmes repartent
exactement.
Dans les zones d'insécurité pour aller chercher de l'eau.
Exactement. Oui, oui, effectivement, c'est un paradoxe. C'est une forme de résilience, et non pas de choix. Ces populations ont fui à cause de l'insécurité, mais elles sont dans une situation où elles sont obligées de repartir chercher de l'eau dans ces villages-là. Vous pouvez faire 24 heures sans avoir 10 bidons d'eau, donc faire 5-6 km avec votre charrette, avoir 20 bidons en une journée, elle n'hésite pas.
Évidemment, ce manque d'eau peut poser des problèmes sanitaires, bien entendu, et particulièrement en période de pandémie Covid.
Oui, nous avons bien sûr des dispositifs de lave-main, mais bon, le début en tout cas ça va, mais après on n'arrive pas à avoir de l'eau pour alimenter ces lave-mains.
Ce stress hydrique, ça crée des conflits entre les populations ?
Oui, ce stress hydrique cause souvent des conflits, j'allais dire des querelles communautaires, parce que les autochtones, à un moment donné, ont du mal à accepter cette pression-là. Ça met la pression sur tous les services sociaux de base, l'eau, les marchés, les centres de santé. Et donc, les responsables coutumiers, religieux, comme les humanitaires, ont fait un travail titanesque pour que les populations hôtes ne considèrent pas les déplacés comme la cause de leur situation et qu'il faut être très, très solidaire. Il y a des gens qui ont abandonné leurs champs pour que les déplacés puissent s'installer. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même plus produire à cause de la présence des déplacés. À Barsalgo, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une seule famille qui n'a pas accueilli les déplacés.
Monsieur le maire oui. de Barsalgo, oui. si le conflit perdure dans le temps, oui. quelle solution aujourd'hui vous avez à Barsalgo ?
Les populations sont vraiment au bout de leur... patience. Pour l'accès à l'eau potable, ce que nous pensions, c'est d'abord la construction des retenues d'eau pour que les animaux puissent avoir des lieux pour abreuver. Ça va diminuer la pression déjà sur les forages au niveau de la ville. Et le second point, c'est de trouver des villages environnants qui ont des forages à gros débit pour canaliser l'eau jusqu'à Barsalgo.
Le pacte de l'eau, c'était un reportage de Samuel Turpin et de Eric Ouedraogo. Eric Servat, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre international sur l'eau de l'UNESCO, basé à Montpellier, dans le sud de la France. Revenons un peu sur ce reportage. L'insécurité qui gangrène le Burkina Faso depuis 4 ans entraîne, on l'a entendu, des migrations qui accroissent les tensions autour de l'eau, comme on l'a entendu dans la ville de Kaya, dont le nombre d'habitants a doublé en moins de 2 ans. Des tensions qui sont encore plus fortes en cette période de pandémie. Cette pandémie, elle renforce les tensions autour de l'eau. Par exemple, on a besoin de se laver les mains.
Oui, absolument. Alors, je pense que la pandémie s'ajoute à une situation qui est déjà très compliquée. L'urbanisation de nos sociétés se vérifie partout. D'ici quelques années, c'est près de 70% de la population qui vivra en milieu urbain. Et c'est vrai que dans les pays, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, c'est un phénomène qu'on observe, et la ville de Kaya en est un exemple, avec sa population qui a doublé pour de mauvaises raisons, parce que on peut imaginer facilement que bon nombre de ces gens qui sont venus s'installer en ville auraient préféré rester là où ils avaient leurs traditions, là où leur famille avait ses racines. Et on observe ce phénomène dans beaucoup d'endroits aujourd'hui en Afrique. Cette urbanisation, elle se fait dans un contexte où les infrastructures ne suivent pas. Et quand on est a fortiori dans une période de pandémie comme on la connaît, avec souvent un habitat qui n'est pas satisfaisant, avec une promiscuité, une précarité importante, effectivement, les besoins en eau ne sont pas satisfaits, a fortiori quand on a des besoins qui sont des besoins d'hygiène absolument indispensables pour éviter les contaminations.
Alors, quelles sont les solutions que la recherche peut apporter face à cette urbanisation galopante ?
Alors, en fait, je pense que la recherche, elle travaille finalement pour aider, pour essayer d'identifier des possibilités. Ça n'est pas elle qui mettra en œuvre les solutions. Elle essaye d'apporter des éléments aux gestionnaires, aux décideurs, pour qu'ils puissent mettre en œuvre des solutions qui sont des solutions adaptées. Alors, des solutions adaptées, elles peuvent passer par différentes pistes. Elles peuvent passer par l'identification de ressources supplémentaires. C'est pas très simple, notamment dans la région de Kaya ou au Burkina d'une manière générale. On peut imaginer que dans des régions plus équatoriales, par exemple, avec des régimes de précipitations qui sont différents, il y ait d'autres options possibles. Là, ça veut dire qu'il va falloir essayer d'identifier des ressources souterraines ou des ressources alternatives. Il va falloir mettre en œuvre des systèmes de production d'eau potable à partir d'une eau qui n'est pas forcément de bonne qualité. Et donc, il y a des systèmes qui doivent être installés, sur lesquels on a par exemple à Montpellier des équipes qui travaillent pour produire de l'eau potable à partir de systèmes de filtration construits à partir de membranes et alimentés en énergie par l'énergie solaire. On essaie de développer des systèmes qui sont des systèmes robustes avec une maintenance faible, à bas coût énergétique, de manière à ce qu'ils puissent être installés dans des endroits où il sera difficile de se rendre de manière régulière et fréquente, mais qui vont aider à la production d'eau potable. Cet aspect-là est important, l'aspect d'éducation à l'eau, à l'utilisation de l'eau, dans une perspective d'économie de la ressource, c'est quelque chose qui est très important aussi. Et là, on est plutôt sur des volets qui ne sont plus des volets de sciences « dures », entre guillemets, mais plutôt sur des volets de sciences sociales, et c'est extrêmement important de développer ces aspects de sciences sociales auprès des populations. Et puis, il y a tout un travail à faire au niveau des infrastructures qu'il convient de mettre en place. Et ça, il y a un travail de sensibilisation au niveau des politiques publiques et des choix qui doivent être faits en matière de politique publique pour que l'eau n'apparaissent pas trop souvent comme le parent pauvre des politiques qui sont mises en place dans un certain nombre de pays.
Oui, puis il faut faire attention à ces notions de prix de l'eau, parce qu'on voit parfois des entreprises internationales qui arrivent avec leurs solutions, mais des solutions qui ne sont pas toujours adaptées, qui sont parfois chères. Donc il faut que les décideurs politiques soient bien armés pour faire les bons choix.
C'est vrai. Donc il y a tout un travail qui doit être fait. Il y a tout un travail qui doit être fait justement d'expertise, et la recherche, et notamment les équipes qui travaillent dans le domaine des sciences sociales et qui travaillent dans le domaine des sciences politiques, ont une expertise qu'il convient de mettre à disposition des décideurs et des gestionnaires pour aller dans cette direction-là. Après, c'est vrai qu'on a remarqué aussi que dans beaucoup de pays, on a remarqué que la politique de tarification était un levier important. Alors, il ne s'agit pas effectivement d'arriver à des systèmes qui soient hors de prix pour les populations. Ça n'a aucun intérêt parce qu'à l'arrivée, le bénéfice est quasi nul. On a constaté aussi qu'une gratuité absolue de l'eau n'était pas une bonne solution. Et que même avec un prix minime, les résultats attendus en matière notamment de gestion participative des systèmes qui étaient mis à la disposition des populations, eh bien, cette gestion participative, elle conduisait à de bien meilleurs résultats avec des prix minimes.
Alors en zone rurale aussi, les tensions sont fortes. Hein. On entendait dans le reportage de Samuel Turpin et d'Éric Ouédraogo la difficulté de se partager l'eau entre les Peuls qui sont des éleveurs, les Mossis qui sont majoritairement des agriculteurs. Dans de nombreuses régions du monde, ces tensions entre ethnies montent. Et ce sont les femmes et les jeunes filles qui en sont souvent les premières victimes de ces tensions et de cette raréfaction de l'eau en zone rurale.
Oui, absolument. Alors, je ne rentrerai pas sur la partie qui est la partie liée à d'autres critères en matière d'instabilité ou de tension politique ou terroriste même dans certains cas. Et les tensions entre ethnies, finalement, elles s'exacerbent quand l'eau vient à manquer. Et donc là, on en revient à la production d'une eau potable accessible aux populations dans des conditions décentes et qui leur permettent effectivement, compte tenu de leurs revenus, d'y avoir accès. Ces questions de tension, elles sont liées à la raréfaction de la ressource. On peut imaginer effectivement qu'entre des éleveurs et des agriculteurs, l'usage de l'eau soit pas le même et qu'il y ait effectivement ces conflits. Ce qui est vrai aussi, c'est que trop souvent, il y a une forme de corvée d'eau pour les besoins de la famille, du village, du travail. Et ça reste encore beaucoup trop souvent les femmes, les filles, les jeunes filles qui sont chargées de cette corvée d'eau et qui vont parfois sur des temps longs, loin pour chercher et ramener de l'eau pour la famille ou pour le village. Et en début de semaine, donc lors de son allocution, Madame Azoulay, qui est la directrice générale de l'UNESCO, rappelait que ça se traduit par des centaines de millions d'heures pendant lesquelles les filles, les petites filles, les jeunes filles ne vont pas à l'école, manquent de temps pour s'informer, pour être éduquées, et du coup, ça n'en fait pas des citoyennes qui sont qui ont une vraie capacité de choix, de responsabilité. Et effectivement, ce sont bien les femmes et les filles qui souffrent de ces tensions qu'on connaît en matière d'alimentation en eau.
Alors, vous dirigez le Centre international sur l'eau de l'UNESCO, donc qui réunit, vous le disiez au début de cette émission, hein, des centaines de scientifiques, 17 laboratoires, des doctorants, parce que la recherche, on l'a compris, a un vrai rôle à jouer pour relever ces défis. Et vous venez justement de lancer des programmes de recherche avec cet objectif de former des chercheurs, des ingénieurs en Afrique.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un objectif qu'on poursuit depuis longtemps, ne serait-ce que, par exemple, des organismes comme le CIRAD ou l'IRD ont pour mission de développer une recherche en partenariat avec les équipes de scientifiques des pays du Sud. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et que nous cherchons à renforcer, à développer et à structurer avec des outils qui permettent de s'inscrire dans une certaine durée, de formaliser un peu les choses et de s'inscrire dans la durée. Je pense que c'est nécessaire. Et puis, il y a effectivement le besoin, et pour le coup, en début de semaine aussi, dans le cadre de cet événement sur la Journée mondiale de l'eau, Abou Amani, qui est nigérien de nationalité, qui est aujourd'hui le directeur de la division des sciences de l'eau à l'UNESCO, insistait considérablement sur le besoin de ce qu'on appelle le capacity building, le développement des compétences. Et nous avons, dans le cadre du Centre UNESCO, nous avons décidé de mettre en œuvre avec nos partenaires, là aussi, pour avoir quelque chose qui soit bien adapté au contexte et non pas calqué ou importé purement et simplement des formations que nous avons dans nos universités ou dans nos écoles d'ingénieurs au Nord. L'idée, c'était vraiment de développer en partenariat avec les universités des formations. Et par exemple, on évoquait tout à l'heure cette urbanisation grandissante, hein, cette concentration de population dans le cadre de migrations intra-pays. Donc ces métropoles qui deviennent dans beaucoup d'endroits des mégapoles en Afrique, il faut absolument avoir des gens qui soient capables de bien comprendre ce qui se passe, qui aient donc été formés à ça et qui soient après en mesure d'essayer de mettre en place les bonnes solutions, celles que nous avons évoquées tout à l'heure. Ce n'est pas le tout, d'une certaine manière, de conseiller les pouvoirs publics pour qu'ils mettent en œuvre des politiques publiques adaptées. Encore faut-il qu'il y ait les ingénieurs et les techniciens pour les mettre en œuvre. Et par exemple, donc, avec les universités de Nangui-Abrogo à Abidjan, de Mans, toujours en Côte d'Ivoire, et l'Institut Félix Houphouët, l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, nous venons avec l'Université de Montpellier de lancer ce qu'on appelle un diplôme d'établissement qui permettra à des étudiants qui sont déjà en master, dans un master auquel nous avons aussi été associés, qui est le master Marema en Côte d'Ivoire et dans la région, qui permettra donc à des étudiants en hydraulique et en hydrologie d'acquérir 160 heures de formation supplémentaire pour se spécialiser dans le domaine et les problématiques de l'eau en milieu urbain. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose. Et ce que nous souhaitons faire, c'est développer plus avant ces formations qu'on va construire en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur dans les pays du Sud.
Et notamment pour les étudiantes, vous cherchez à attirer les filles.
Absolument, on cherche à attirer les filles. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que dans ces formations-là, il y a trop peu de filles, alors que aller sur le terrain, discuter avec les femmes et les jeunes filles, par exemple, on imagine facilement que ce sera plus aisé pour une jeune femme qui aura été formée dans un master spécialisé d'aller discuter avec elle plutôt que pour des garçons. Donc, c'est l'objectif. Et pour ça, on s'appuie aussi sur des partenariats qu'on souhaite construire avec des chaires UNESCO qui existent aujourd'hui. Je pense, j'en connais en particulier deux, une au Togo et une en Côte d'Ivoire. Celle de Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans qu'elle existe. Elle s'intitule « Eau, femme et pouvoir de décision ». Et elle fait cette chaire UNESCO fait un remarquable travail de terrain et de formation. Et cette question du genre, comme je le disais tout à l'heure, elle est essentielle aujourd'hui. Et vraiment, nous souhaitons développer des partenariats avec des chaires de ce type-là pour faire progresser, je dirais, la cause des femmes dans le domaine de l'eau dans les pays d'Afrique.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Éric Serva, pour votre participation à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur vos applications préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous vous donnons rendez-vous demain, même planète, même heure. How about we go and let this thing behind ourselves? We've been through this, there's no need to hide away again. We will go to the ocean and we'll find love on the other side, and we'll take all our chances. Just as long as we're together, we can set sail to the night.
Littérature sans frontières, Catherine.